Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. C'était Victor Hugo, il y a déjà assez longtemps, et pourtant. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, on commence par la traditionnelle citation. Je regarde autour de moi dans le studio pour voir si tout le monde est vigilant pour me dire quel est l'auteur. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour apaiser l'avidité de quelques-uns. Les doigts ne se lèvent pas. Vous n'allez pas le trouver. C'est un homme politique. Je dis ça pour mon invité que je vais vous présenter dans quelques secondes. C'était le Mahatma Gandhi, tout simplement, hein, qui savait déjà de quoi il parlait. Et même si je crois qu'il est décédé dans les années 1948, c'est toujours tout à fait d'actualité. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bien d'abord, on va parler d'écologie politique avec notre invité, pas que d'ailleurs, certainement, c'est à lui de voir. Nous commenterons ensemble la traditionnelle revue de presse et on finira par des conseils culturels qui seront, si j'ai bien compris aujourd'hui, essentiellement des conseils de lecture. Jean-Michel Huppé, merci, bonjour d'abord.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes un chercheur universitaire, vous êtes chercheur au CNRS. Pendant 25 ans, vous avez travaillé dans le domaine des neurosciences sur la perception visuelle, et les synesthésies. Vous expliquerez ce que sont les synesthésies, même d'ailleurs la perception visuelle. Et puis aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écologie politique au sein de deux laboratoires. D'abord Framespa, de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, on en parlera. Et puis un collectif multidisciplinaire qui s'appelle l'ATECOPOL, comprenez l'atelier d'écologie politique. Vous nous expliquerez de qui il est composé, quels sont ses objectifs, sachant que vous avez travaillé sur un ouvrage collectif « Débrancher la 5G ?» Point d'interrogation. Poser la question, c'est presque y répondre, mais vous nous direz un mot là-dessus. Vous avez écrit « Enquête sur la technologie imposée ». Vous avez co-rédigé un chapitre de l'ouvrage « Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public ». Ça, c'était au Seuil en 2022. Jean-Michel Huppé, alors, qu'est-ce que c'est que la synesthésie et la perception visuelle que vous ne pratiquez plus, je crois?
Non, j'ai effectivement arrêté, mais j'ai pendant pas mal d'années, c'était mes sujets de recherche. Hein, donc, la perception visuelle, en tant que neuroscientifique, c'est comprendre comment notre cerveau construit une perception, c'est-à-dire comment il utilise les informations qui nous proviennent par les yeux. Mais tout ça, il y a beaucoup d'opérations mentales, neuronales qui sont faites. Donc voilà, essayer de comprendre ça. Et l'outil que j'utilisais, c'est quelque chose d'assez simple. Ce sont les illusions visuelles, ce qu'on appelle illusions visuelles, qui sont juste des façons de mettre en défaut, si vous voulez, notre perception. Mais en fait, ce n'est pas la mettre en défaut, c'est révéler quels sont les mécanismes de construction en donnant des informations insuffisantes à notre système visuel. Donc, on voit ce qu'il est obligé d'inférer, en fait. Ça, c'était les illusions visuelles. Et mon autre thème, qui est venu de la perception visuelle, mais qui est un peu plus large, ce sont les synesthésies. Les synesthésies, c'est quelque chose... Ce sont des particularités mentales. Donc, tout le monde n'a pas ça. Ce sont des façons de penser, en fait, de certaines personnes. Et cette façon de penser, ce sont juste des associations, mais qui sont systématiques, entre typiquement les plus classiques, hein, c'est entre, ou les plus connus, c'est entre un son et une couleur, ou le fait d'associer des couleurs à des chiffres ou à des lettres, ou le fait de se représenter systématiquement les chiffres selon une représentation spatiale. Donc ça, c'est quelques-uns des exemples les plus connus, mais en fait, il y a tout un tas de particularités qui sont totalement subjectives, qui sont complètement non pathologiques. Et ça illustre que, on ne fonctionne pas tous et toutes de la même façon dans notre tête. Et ben voilà, c'était un sujet passionnant pour entrer un peu dans la subjectivité des personnes et puis essayer de comprendre est-ce que ça peut nous guider à comprendre un petit peu comment la perception, comment les représentations subjectives se construisent par un cerveau. Avec la réponse, hein, voilà, je vous fais très vite, non, c'est trop compliqué pour comprendre comment ça se passe dans le cerveau. Voilà, on ne comprend pas comment ça se passe spécifiquement dans le cerveau de ces personnes. Ce n'est pas très grave. En attendant, l'étude, en tout cas, nous a permis d'enrichir un peu la compréhension de la diversité et de la richesse de l'humanité.
Donc on comprend qu'il n'y a rien à comprendre parce qu'on n'a pas les moyens, mais que c'est riche quand même.
C'est riche, mais au moins certaines questions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut soit utiliser ça pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, savoir pourquoi une personne, tout d'un coup, quand elle entend des sons ou des mots ou des lettres ou elle les lit, tout d'un coup elle a une couleur et pourquoi une autre personne ne l'a pas, est-ce qu'on peut identifier ça dans le fonctionnement du cerveau? La réponse est à ce jour, en tout cas, non, pas vraiment, enfin même pas du tout.
Bon, donc on attendra peut-être que les techniques et que l'art avancent pour savoir.
Pour savoir, ou c'est pas forcément utile de le savoir. C'était une question de curiosité intéressante qui avait des potentiels. Et voilà, si on reprend la démarche scientifique dans la perspective un peu philosophique, savoir qu'on ne sait rien, c'est peut-être un plus haut niveau de savoir, justement. Connaître nos limites, notre ignorance, c'est certainement...
Ça s'appelle l'humilité, non?
Oui.
Ce n'est pas la qualité la mieux partagée aujourd'hui et même dans le passé.
Et pas forcément toujours chez les scientifiques, malheureusement. Il y a évidemment une dimension de démesure, d'hubris hein, dans la perspective scientifique. Mais cette dimension, elle existe. Moi, auprès des collègues, il y en a qui n'ont pas cette humilité, mais beaucoup de mes collègues, souvent parmi les plus sérieux, connaissent la complexité de ce sur quoi ils travaillent et donc sont très humbles sur les conclusions auxquelles ils ou elles arrivent.
C'est le syndrome de la grosse tête pour les autres, c'est ça? Pour le parler de façon plus triviale?
Il y a des personnalités avec des égos importants, oui, qui ne sont pas forcément la meilleure façon de faire de la science, de façon collégiale.
Il n'y a pas que dans la science, d'ailleurs, qu'on les trouve. Si on glisse vers la politique, on va y arriver, puisqu'aujourd'hui, vous travaillez sur l'écologie politique. Là aussi, vous avez des beaux spécimens.
Alors, l'écologie politique, effectivement, peut-être pour clarifier, dire ce que c'est pas, ça ne s'intéresse pas forcément aux hommes et aux femmes politiques, hein. Même si c'est à prendre le terme politique hein, dans écologie politique, il est à prendre comme dans sciences politiques. Donc c'est absolument pas l'écologie politique utilisée pour décrire les partis écologistes comme les Verts. On parle aussi d'écologie politique, donc là il y a une petite subtilité. Quand on fait de l'écologie politique en tant que scientifique, c'est une discipline, une sorte de discipline scientifique, et dont le but est d'éclairer dans les questions écologiques, on dit d'environnement, etc., de voir quels sont les rapports de domination, les rapports de force, les rapports de pouvoir, etc. Notamment, voilà, donc il y a des thématiques, par exemple, de justice environnementale qui sont importantes. Et c'est dans ce terme-là qu'on l'utilise. Et c'est une discipline, c'est très, très pluridisciplinaire, hein, parce que forcément, ça touche un peu à tout. Mais ça reste une approche totalement scientifique.
Alors, vous consacrez à ça au sein du laboratoire Framespa. Donc peut-être un mot sur qu'est-ce que Framespa?
Alors, c'est un laboratoire qui est situé à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Hein. C'est un laboratoire d'histoire, principalement, et historiquement, hein, parce que c'est un laboratoire, comme tous les laboratoires, qui a un historique qui a grossi pas mal, et qui, à partir de l'histoire, s'ouvre de plus en plus à plusieurs disciplines, à pluridisciplinarité. Et donc, peut-être revenir sur mon historique. Il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé d'arrêter les neurosciences pour me consacrer à l'écologie politique parce que je trouvais que c'était plus urgent, voilà, de consacrer mes forces à ce sujet. C'est un laboratoire qui m'a accueilli pour travailler là-dessus. Et il y a notamment toute une, il y a une équipe émergente qui fait de l'histoire environnementale, avec qui on est assez proche dans ce laboratoire. Donc il y a une certaine logique de...
Dont Madame L'Hortelière, dont nous parlions en micro.
Voilà, donc L'Hortelière, qui est une collègue avec qui, avec quelques autres personnes, on est à l'origine de ce collectif La Técopole il y a 5 ans, et qui effectivement était déjà au laboratoire Framespa, donc avec qui on travaille... régulièrement.
Alors ce laboratoire à Técopole, donc atelier d'écologie politique, qu'est-ce qu'il a de différent avec Framespa ?
Alors ce n'est pas un laboratoire, pas du tout un laboratoire, comme vous l'aviez dit, sinon c'est un collectif. Donc c'est un collectif spontané de scientifiques de la région toulousaine.
Comment devient-on spontané dans ce domaine-là ? Il faut quand même se rencontrer, partager un certain nombre de choses, visions, de constats et peut-être de buts.
C'est parti effectivement de rencontres, de préoccupations communes. Lors de conférences et de discussions avec des collègues, on s'est aperçu qu'on avait des préoccupations extrêmement proches, notamment donc avec L'Hortelière. Et ces préoccupations, il y a 5 ans, c'était vraiment ce constat absolument effarant que ça fait des dizaines d'années que les scientifiques, notamment les scientifiques du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, sonnent l'alarme, au moins depuis les années 90. Et pourtant, on observe que malgré toutes les conférences de parties, les COP, toutes les grandes réunions, malgré ce savoir, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est la phase... l'un des éléments les plus causaux, les plus directs du réchauffement climatique, cette concentration continue à augmenter, qu'il n'y a pas de changement majeur. Et pourtant, on saurait très bien ce qu'il faut faire, parce qu'au-delà, il y a les causes directes, donc les gaz à effet de serre, les causes indirectes, on en parle de plus en plus, ce sont les énergies fossiles, voilà, qu'il était question d'arrêter lors de la COP 28 à Dubaï. Est-ce qu'on arrête les énergies fossiles qui causent ces émissions de gaz à effet de serre ? Mais derrière les énergies fossiles, comme c'est à peu près 80% de l'énergie mondiale, c'est toute l'activité économique. Donc c'est toute l'organisation socio-économique actuelle de notre monde capitaliste, mondialisé, dopé à la croissance économique, qui veut toujours plus de consommation, etc., qui est la cause réelle. C'est une façon de voir, en tout cas, un phénomène causaux. Donc tant qu'on n'aura pas résolu la cause... on n'arrivera pas à résoudre les problèmes climatiques et aussi tous les autres problèmes écologiques. Donc la question, la question du climat, c'est typiquement une question politique. Ça, c'est vraiment très très important au sens, c'est pour ça qu'on parle d'écologie politique. Dans un ouvrage en 2012, Bruno Latour disait de penser que quand le GIEC dit il y a tant d'émissions de CO2 et il faudrait les réduire à zéro ou les diminuer fortement, de penser que ça c'est juste quelque chose de neutre, c'est complètement naïf, puisque diminuer, supprimer les sources d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire changer de modèle socio-économique. Donc c'est une question politique, pas une question partisane, attention, c'est une question politique, c'est-à-dire comment on transforme le monde socio-économique. Quels choix on doit faire, quelles sont nos valeurs, à quoi on tient, qu'est-ce qu'on veut, et quand, si possible, quand on a certaines valeurs qui sont les miennes, d'idéal démocratique, républicain, etc., on aimerait que ce soit l'ensemble de la société qui puisse avoir cette conversation, cette discussion, comment on change et qu'est-ce qu'on change dans le système socio-économique. Et donc, c'était vraiment l'idée de base de nos conversations avec des collègues, et on s'est dit, en tant que scientifique, est-ce qu'on peut aider à avoir cette conversation ? Et donc on a créé ce collectif vraiment pour essayer d'avoir cette conversation avec le public, comment on peut aider en tant que scientifique à changer la société.
Alors est-ce que vous pensez que vous y arrivez ? Parce que les scientifiques, et notamment ceux du GIEC, on a des gens d'une immense qualité. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'ils travaillent, ça fait très longtemps qu'on a écrit aussi, il y a eu le Club de Rome, il y a eu les écrits de Jacques Ellul l'avant et de ses camarades qui ont travaillé avec lui. On sait à peu près où on en est aujourd'hui, on sait pourquoi on en est là, on sait ce qu'il faudrait faire, on sait même à peu près comment on pourrait le financer. Et pour autant, ça reste sur le papier. C'est un peu désespérant. Je lisais une phrase de Bernard Guillot, qui est écrivain, qui a dit « Le marché, c'est le jugement ultime. Déranger le marché, c'est déranger le monde. » Alors, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est économique, la problématique ?
L'économie est politique.
C'est la politique qui est économique ou l'économie qui est politique ?
Au XIXe siècle, la discipline s'appelait l'économie politique. Mmh. L'indépendance de l'économie en tant que discipline indépendante, ça s'est fait progressivement au XXe siècle et pas forcément facilement. Donc non, effectivement, l'économie, quel modèle économique on souhaite, ce sont évidemment des questions politiques. Et le fait, si on souhaite de résoudre les questions sociales par le marché... c'est évidemment un choix politique. Donc, alors, c'est sûr qu'il y a un problème au sein des disciplines économiques, hein, ce qu'on appelle l'économie orthodoxe, néoclassique, etc.
Ce n'est pas les économistes atterrés, effectivement.
Non,
c'est pas tout à fait la même vision.
Et justement, comme le montrent les économistes atterrés, qui ont tendance à vouloir privilégier leur approche, la faire comme la seule, unique, la vraie, la science, alors que c'est pas la seule qui existe déjà, de la façon de penser les relations économiques. Et puis surtout, elle a été très, très critiquée depuis très, très longtemps, parce qu'elle a plein de problèmes, voilà, pour faire très vite. Et ce qu'on voit, surtout, elle est évidemment politique, puisqu'elle soutient systématiquement les politiques en place, le système de marché. Et voilà, on a des exemples tous les jours d'économistes qui sont en défense de l'ordre établi.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Vous qui êtes un spécialiste du cerveau, finalement, il y a les politiques, effectivement. Il n'y a pas que les politiques, il y a toute la société civile dont on voit quand même aujourd'hui, puis quand même un peu de matraquage, donc commence à y avoir une prise de conscience qu'il faudrait certainement vivre autrement. Alors, avant que ça se traduise dans les faits, il y en a pour un moment, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'homme ? Est-ce qu'il a atteint ses limites cognitives aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut envisager... S'il ne change pas sa finitude, est-ce que l'Homo sapiens peut se dire, dans un siècle, deux siècles, si je continue comme ça, tout va s'arrêter, je vais disparaître en tant qu'humanité. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour un cerveau d'envisager ça ?
Alors, la réponse est non, ce n'est pas trop compliqué, on peut le faire, parce que ça fait des dizaines d'années que des Homo sapiens le font.
Mais là, ils patinent un peu dans la choucroute, les Homo sapiens, ça n'avance pas, il n'y a pas de résultat.
Et après, la question de se dire, est-ce que la question, elle est à poser au niveau de l'Homo sapiens, de l'individu, ou au niveau de la société ? La question, elle pose, là, quand on pose la question de l'organisation de l'ensemble d'une société, la façon dont on pense le résoudre, c'est déjà une vision politique. On voit que si on a fait une approche par l'individu en ignorant, par exemple, des concepts comme les classes sociales, ou des situations, des personnes, là où elles se trouvent, leur capacité, leur pouvoir. Déjà, on biaise énormément la question. C'est une approche possible. Et pour ce qui est du cerveau, c'est, voilà, donc déjà poser la question, ça donne un peu... C'est déjà, c'est une façon de poser la question qui est très classique, de se dire comme si c'était le problème, c'était l'individu qui ne veut pas changer. C'est... Moi, je ne suis pas sûr de ça. Quand on pose la question à beaucoup de personnes, dans des enquêtes ou encore plus dans des entretiens, si on expose aux personnes, voilà la situation dans laquelle on est. On est dans une situation où l'emballement climatique et les destructions écologiques font que des conditions de vie décentes, l'habitabilité de notre planète dans les prochaines années, ou dizaines de prochaines années, est fortement compromise. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas uniquement par les phénomènes climatiques extrêmes ou des épidémies dues à la perte de biodiversité, etc., etc. C'est le fait que toutes ce qu'on appelle ces crises, terme pas très exact, écologiques, sont des multiplicateurs, des accélérateurs de conflits. On voit qu'il y a déjà énormément de conflits au niveau mondial. Et si vous avez des zones entières qui deviennent inhabitables parce qu'il fait trop chaud pendant plusieurs mois de l'année, ou des récoltes qui sont complètement détruites par des incendies, ou que la terre est trop pauvre, trop polluée.
Ou une eau qui vient à manquer, comme on le voit déjà.
Et l'eau qui vient à manquer, ce sont des famines terribles. Et tout ça, et il y a problème des ressources, donc tout ça c'est très clair, c'est pour ça que le GIEC avait eu le prix Nobel de la paix, c'est que ces questions écologiques sont d'abord des questions géopolitiques, Et si vous allez voir du côté du département de la défense américain ou de l'armée française, ils prennent en compte ces risques-là et s'attendent à un monde beaucoup plus violent. Et donc, malheureusement, donc ça, c'est des choses, c'est pas pour être catastrophiste, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour quoi que ce soit, mais je pense, une obligation morale et vraiment une nécessité de faire l'effort d'imaginer un futur qui soit absolument terrible. On ne va pas s'arrêter à ça, mais en tout cas, surtout pas rentrer dans une posture de déni, on dira « ça nous fera trop peur, je ne veux pas y penser », etc.
Est-ce que ce n'est pas confortable, justement, de se réfugier dans le déni ?
Ah ben, le déni est forcément confortable, mais de toute façon, on ne s'y réfugie pas de façon spontanée. C'est-à-dire quand on travaille sur ces questions-là, comme je le fais avec les collègues, qu'on est confronté tout le temps, la quantité de données, de la force de l'évidence est telle qu'on ne peut pas être dans le déni. Et on se retrouve donc exactement dans la même situation que était celle dans l'après-guerre au moment de la bombe atomique, de dire tout d'un coup, et de début de la guerre froide, comment on fait pour vivre avec cette idée que d'un moment à l'autre, il peut y avoir quelque chose qui déraille, les Américains et les Russes appuient sur le bouton, et c'est l'anéantissement en quelques heures de quasiment toute l'humanité. Ou en tout cas, peut-être l'Homo sapiens survivra, mais en tout cas, toutes nos civilisations disparaîtront. Alors, avec le changement climatique, la perte de la biodiversité, l'ensemble des pollutions, etc., c'est pas du jour au lendemain, sauf si ça amène à des conflits qui amènent à une guerre nucléaire, ce qui reste, la menace, elle est toujours là. Mais comment on fait pour penser ça et comment on fait pour partir de là ? Quand on pose ces choses-là, l'avantage, c'est que ça permet de vraiment se confronter à ce à quoi on tient. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous ? Et là, on revient aux discussions qu'il y avait eues, qui étaient très saines au moment du Covid, qui étaient quels sont les besoins essentiels ? Quels sont les métiers essentiels ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous ? Et ça, c'est fondamental, parce que dans ce cas-là, on peut ouvrir une autre domaine d'imagination. Donc l'imagination, ça s'appelle l'imagination sociologique, c'est-à-dire les conversations qu'on devrait avoir dans nos sociétés, avec nos amis, nos parents, politiques, etc., sur dans quel monde on souhaite vivre. Et quand on part de cette situation, on s'aperçoit que la plupart des choses auxquelles on tient vraiment, elles ne sont pas matérielles. Voilà, c'est des relations humaines, on fait un minimum de confort, mais tous les gadgets, toute la surconsommation, tout ça, ça ne nous rend pas heureux et ce n'est pas ça auquel on tient. Donc ça, c'était critiqué depuis les années au moins 50-60, la critique de la société de consommation qui ne nous rend pas heureux. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la critique culturelle de la croissance économique, notamment. C'est de montrer que de toute façon, elle ne nous rend pas plus heureux, elle est plus inégalitaire, on était toujours des pauvres, donc ça ne marche pas. Mais voilà, on peut ouvrir, dans ce cas-là, on dit, c'est en fait, OK, il y a un problème d'émissions de CO2, de pollution, de choses comme ça, mais si on changeait notre société pour vraiment ce à quoi on tient, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de brûler autant d'énergie, on n'a pas besoin d'autant de matériaux, et on peut préserver notre environnement. On peut vivre décemment sur cette planète, dans les limites planétaires, sans nous mettre en danger.
Quand vous entendez un président de la République, quand on lui oppose ce genre d'argument qui vous dit « vous voulez nous faire vivre comme des Amish », qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça a été fortement dénoncé, c'est une caricature, puisqu'il il ne s'agit pas de revenir en arrière. De toute façon, je ne suis pas historien, je suis dans un labo d'histoire, on sait très bien qu'on ne revient jamais en arrière. Et toutes les propositions, justement, de dire ce à quoi on tient, c'est absolument pas pour revenir en arrière, c'est pour inventer autre chose. Et il ne s'agit absolument pas de supprimer un certain confort ou même de supprimer des techniques ou des technologies. Voilà, il y en a certaines dont on ne voudrait pas se passer. Il n'y a aucune raison pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait. Pourquoi il y aurait un système qui soit tout ou rien ? Soit c'est une société qui est en croissance, qui a besoin de plein de gadgets, qui a besoin d'obsolescence, qui a besoin de pollution, ou vivre comme l'homme des cavernes ou la femme des cavernes. C'est évidemment que c'est ridicule comme opposition, c'est juste un...
Il vivait très bien, mais bon...
Là, j'en sais rien, mais...
On fait une première pause musicale. Vous connaissez Serge Resvani ?
Un petit peu.
Voilà, j'ai choisi un de ses derniers titres, « Vous qui venez de naître ». Donc, il a écrit les paroles, il a écrit la musique, et c'est Dominique A. qui le chante.
Ils disent que jeunesse, ça passe. Ils disent que de vivre, ça lasse. Ils disent que demain ne vaut rien. Ils disent que la vie n'est que chagrin. C'est ce que prétendent les anciens. N'écoutez pas leur sens commun. N'écoutez pas ces vieux déçus qui vous veulent tel qu'ils ont vécu. Vous qui venez de naître à cette terre qu'il a découvert dans sa lumière, vous à qui ils disent trop tard, bien que si belle encore à voir. N'écoutez pas ces mots amers de ceux qui ont pollué la mer et la terre, ceux qui vous laissent un air corrompu et qui vous disent que c'est foutu. Vous qui venez de naître à cette terre qu'il a découvert dans sa lumière, sachez que cette terre est à vous et qu'elle survive dépend de vous. Surtout récusez leurs vieilles croyances. Sachez qu'on peut encore en guérir de notre histoire, de notre tendance à toujours provoquer le pire. Vous qui venez de naître à cette terre, vous à qui nous devons l'avenir, pour qui le souvenir est nécessaire comme exemple à ne pas reproduire. Vivez à l'envers de l'histoire, surtout vivez autrement. Vous devez encore y croire, car il en est vraiment encore temps. Vous qui venez de naître à cette terre qu'il a découvert dans sa lumière, donnez-lui de votre jeunesse et que de nos cendres elle renaisse. Ne croyez pas qu'il soit trop tard. Refusez ce qu'ils veulent vous faire croire. Refusez le déclin annoncé. Refusez, refusez, refusez.
Voilà Serge Révani, vous qui venez de naître. Les conseils d'un ancien, et nous retrouvons un bon invité, le chercheur Jean-Michel Huppé, enseignant aussi à César, et nous parlions de ce fameux déni que l'on beaucoup. Alors, le déni, il y a les climato-sceptiques, c'est donc ceux qui portent ce fameux déni. On voit quand même de plus en plus de politiques qui affichent ce déni, notamment dans les partis d'extrême droite. On a vu certains arriver en Europe ou ailleurs, en Argentine. On a Trump, on a eu Bolsonaro, on a eu Milei, on en a d'autres en Europe. On vient de voir celui qui a un nom pour moi imprononçable aux Pays-Bas, qui a fait un excellent score. Comment vous analysez ces victoires-là? Parce qu'ils ont quand même été élus assez démocratiquement ensemble. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, connaissant leurs idées, connaissant leurs valeurs, connaissant ce qu'ils prônent et la façon dont ils analysent la société, les ont portés au pouvoir.
Alors, je vais vous décevoir, je n'ai aucune idée. C'est pas du tout mon domaine d'expertise et franchement, je ne sais pas, comme pour vous, ça m'étonne énormément.
Ah, ça veut dire que le déni est quand même beaucoup plus largement... Est-ce que c'est d'ailleurs un déni ou est-ce que c'est le refus des conclusions auxquelles amènerait le déni? Parce que si vous reconnaissez les problématiques du climat et autres, pollution, etc., on ne va pas refaire la liste, vous vous dites qu'il faut changer. S'il faut changer, ça veut dire que vous allez abandonner vos habitudes de vie pour en adopter d'autres qui ne seront pas du tout les mêmes et que vous pouvez juger moins confortables. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le refus des conséquences?
Alors, en fait, on peut distinguer trois formes de déni. Il y a le déni littéral, en disant ça n'existe pas. Donc ça, c'est les climato-sceptiques purs et durs. Hein. Il y a le déni interprétatif, qui se rapproche un peu plus de ce que vous dites, par exemple. C'est de dire, bon, OK, il y a un réchauffement climatique. OK, c'est dû aux activités humaines. Mais c'est pas si grave que ça. On trouvera toujours bien une solution. Typiquement, la technologie va nous sauver. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on va trouver une solution.
Ce qu'on appelle les cornucopiens, c'est ça? C'est-à-dire ceux qui pensent que la technique va être la solution.
Pour, voilà, donc ça, c'est...
Tony dit, par exemple, captage de carbone, comme M. Macron qui est arrivé à Dubaï en disant... il est venu le dire à Toulouse aussi, je crois. Le captage de carbone, donc on sait très bien que c'est une technologie qui est balbutiante, qui n'est absolument pas mature et qui, dont on ne connaît ni les effets ni l'intérêt pour l'instant. Il y a quand même des politiques, des présidents de la République qui se permettent de mettre ça en avant. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'enfumage? C'est de la crédulité? C'est... une absence peut-être cognitivement, peut-être est-il limité ce garçon?
Alors moi je ne me permettrai pas de faire des, voilà, de faire des diagnostics.
Ah, je ne fais pas de diagnostics, je m'interroge.
Donc ça c'est, on, c'est ce qu'on appelle un peu du, des formes de greenwashing en fait.
Oui. Hein,
de façon de... Mais oui, ça c'est, le, c'est très très répandu, hein, le techno-solutionniste de penser qu'il va y avoir une solution miracle. Vous auriez pu citer l'avion vert, hein, de croire. Voilà, Carole Delga par exemple, elle croit qu'on va réussir à faire l'avion vert. Bon, on peut y croire. Mais voilà,
c'est la pensée magique ça.
C'est de la pensée magique et c'est surtout, un, si on prend une question de responsabilité politique, de parier sur des inventions qui n'existent pas plutôt que sur ce qui existe, effectivement, ça, ça peut paraître un peu irresponsable. Est-ce pour revenir peut-être, oui, revenir au, pour ne pas perdre les auditeurs et les auditrices, j'ai annoncé trois niveaux de déni. Le troisième niveau est peut-être le moins connu et le plus intéressant, c'est le déni d'implication. C'est-à-dire d'être tout à fait au courant de ce qui se passe, de savoir que c'est extrêmement grave. Donc des personnes qui seront préoccupées comme moi en se disant est-ce qu'il y aura un monde vivable pour mes enfants, mes nièces, pour les générations suivantes ou même pour moi dans mes vieux jours, voilà ça. Mais qui pourtant ne font rien. Et ça, c'est extrêmement problématique et c'est pas une situation qui est confortable. Donc là, ça peut être aussi une idée de se dire bon, je préfère ne pas y penser pour ne pas m'impliquer.
On appelle la politique de l'autruche, c'est ça?
C'est une politique de l'autruche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une approche sociologique de ce déni montre que c'est pas quelque chose de qui vient spontanément, que ce n'est pas une pure réaction psychologique que systématiquement, j'ai peur, j'aime pas ce sentiment, je vais m'en protéger. Non, en fait. Voilà, ça demande du travail d'ignorer ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce, hein, ça. Et ce travail, il se fait par les conversations, par des mécanismes socioculturels, par des petites choses très simples, hein, le fait d'évacuer une conversation en faisant de l'humour, par exemple, sur les questions du climat, pour éviter d'y réfléchir. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont dans la pratique de tous les jours, qui sont, je dirais, pas forcément volontaires et qu'on peut propager soi-même. Sans s'en rendre compte, voilà, c'est le principe de choses culturelles. Hein, qui est... mais il y a aussi des discours dedans, des discours qui, eux, sont des discours d'excuses et qui sont parfois créés par des lobbies, par des intérêts. Ça va être tous les discours en disant « Ah, nous, on n'est qu'un petit producteur d'émissions de CO2, c'est les autres qui polluent », donc ça, c'est ce qu'on appelle la redirection à d'autres responsabilités, ou... de dire « Ah, mais quand même, le gaz, c'est moins polluant que le pétrole, donc quand j'ouvre des mines de gaz, en fait, je diminue mon émission de CO2. » Voilà, ça c'est... Alors, ben non, il faudrait être sûr qu'on ferme du pétrole, et en plus, c'est pas... Ou du charbon. Donc ça, ce sont tous des discours d'excuses et qui permettent de construire ce déni. Donc ça, c'est un construit culturel, sociopolitique du déni. Une fois qu'on l'a identifié, ça devient... plus simple de savoir justement comment le contrer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de juste dire à une personne « pourquoi tu dénies ?», mais de dire voilà, quelles sont les structures de pouvoir, de communication qui passent dans notre société et pour les contrer. C'est pour ça que je vous parlais de greenwashing. Voilà, on revient exactement là-dessus, parce que l'idée de traquer le greenwashing, c'est de traquer tous ces discours, les discours de redirection, les discours de delay, les discours d'inaction, et de voir, d'essayer de comprendre quels sont les intérêts et pourquoi politiques, hein, les rapports de force, effectivement des personnes qui cherchent à garder leur pouvoir, qui sont dans une vision à court terme, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont dans le même bateau, qui n'y sont pas d'ailleurs tout à fait, parce que ces personnes pourront sans doute se protéger plus longtemps des effets des conflits ou du changement climatique. Et donc là, on voit bien que si ces personnes refusent de se considérer ce même bateau, le même voilà, système Terre, si elles font sécession de l'intérêt commun de l'humanité, ce sont des ennemis pour le reste de l'humanité. Donc il y a bien un conflit politique, d'écologie politique. Non, au sein de l'écologie politique, c'est pas vrai qu'on peut trouver des solutions qui sont win-win-win, hein, que tout le monde c'est pour le mieux. Ça pourrait l'être en principe, mais en fait, non, non, il y a des intérêts particuliers extrêmement forts. Typiquement, hein, toutes les richesses et le pouvoir accumulé sur les énergies fossiles n'est évidemment pas prêt de lâcher ce pouvoir.
Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a engagé un peu une course contre la montre.
Ah ben c'est de plus en plus une course de contre la montre terrible. Hein. Il faut quand même rappeler qu'en 2015, lors de l'accord de Paris, il y a eu... donc ça, c'est un accord qui a été intéressant parce qu'il a mis, il a chiffré un petit peu combien de CO2 on pouvait émettre encore dans l'atmosphère avant d'arriver à une température de 1,5 ou 2 degrés. Pourquoi cette température ? C'est un chiffre abstrait, hein, qui représente la température moyenne globale sur une dizaine d'années de l'ensemble de la planète. Hein, mais c'est un indicateur très, très intéressant parce qu'au-delà, il y a des phénomènes de rétroaction positive, de phénomènes d'emballement climatique, des courants, des systèmes, etc., qui sont possibles. Et qui veut dire qu'au-delà, même si tout d'un coup on arrête toutes les émissions de CO2, eh ben, la température peut continuer à se réchauffer
oui,
pendant un moment.
30-40 ans d'inertie, même si aujourd'hui on a arrêté absolument tout, on le sait.
Alors ça, c'est pas le cas. L'inertie, elle est politique. Il n'y a pas d'inertie climatique. Pour l'instant, en tout cas à notre connaissance, tant qu'on n'a pas passé ce fameux point de bascule, et ça c'est un point qui est extrêmement important, il n'y a pas d'inertie climatique. C'est-à-dire que, enfin, il y a certains points, mais pas au niveau de la température. Si on arrête aujourd'hui d'émettre du CO2, voilà, les 50 et quelques milliards de tonnes d'équivalent CO2 qu'on émet, que toute l'industrie, nos voitures, etc. émettent aujourd'hui, on arrête du jour au lendemain, la température reste à 1,15 degrés comme elle est actuellement en moyenne, peut-être un peu plus, mais elle reste là, elle ne bouge pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment... C'est un apport assez récent du groupe du GIEC, parce que pendant longtemps, il y avait cette idée qu'il y avait une certaine inertie. En fait, maintenant, ils sont aperçus que non, si on ne mettait plus de CO2, en fait, la concentration de CO2 va diminuer doucement dans l'atmosphère.
Mais très doucement.
Elle diminue très doucement. Ça va prendre des centaines de milliers d'années pour qu'elle revienne à son taux naturel. Mais voilà, donc on va pas revenir du jour au lendemain à la température d'avant 1850. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Il n'y a pas de retour en arrière, mais par rapport à la situation actuelle qui est compliquée, hein, on voit le nombre d'événements extrêmes qu'il y a à 1,1 degré, c'est vraiment pas rien du tout, le climat a complètement changé. Mais si on arrête du jour au lendemain, voilà, ça va diminuer lentement, et les phénomènes d'accumulation d'énergie dans les océans qui fait que ça continue, voilà, qui sont sur le long terme, sur des milliers d'années, les océans vont continuer à monter de toute façon, les neiges des glaciers des Pyrénées et des Alpes vont disparaître, enfin voilà, ça c'est à 1,1 degré, c'est au bout d'une certaine inertie, ça continue, mais en tout cas pas le climat. Donc ça veut dire qu'on peut encore arrêter et enrayer, mais simplement comment du jour au lendemain on arrête. Donc l'accord de Paris, t'as dit, ben voilà, c'est juste une quantité de combien de CO2 on en met dans l'atmosphère. Là, au rythme actuel, on en fait à peu près 50 gigatonnes par an. D'ici une dizaine d'années, 10-12 ans, on arrivera à 650 gigatonnes. Et là, on aura plus de 2 tiers ou 3 quarts de chance de dépasser 1,1 degré. Comme l'objectif, on ne veut vraiment pas aller là parce qu'après, on ne sait plus ce qui se passe. Il faut qu'on ne dépense pas plus de, c'était à l'époque, 650 gigatonnes de CO2, si possible. Il nous en reste 200, je crois, 200-230. Donc, comme il y a des marges d'incertitude, ça veut dire que le 1,5 degré, on va l'atteindre dans une fourchette qui varie entre 2 à 7 ans, peut-être 10 ans maximum. Donc, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, ça veut dire que... Et comment on passe d'une société, d'un monde qui dépend à 80% d'énergie fossile qui émet du CO2 et des gaz à effet de serre du jour au lendemain, alors que depuis 2015, tous les pays, il y a un engagement, on devait diminuer. Chaque année, on devait diminuer un peu le
nombre. Ce que personne n'a fait.
Ce que personne n'a fait, ce qui fait qu'on a encore cette année un nouveau record d'émissions de CO2.
Donc ça veut dire que la politique ne fonctionne pas à ce niveau-là. Que les politiques sont plus préoccupées peut-être par des intérêts économiques, par on a vu le nombre de lobbying qu'il y avait, ce qui est d'ailleurs une information intéressante, s'il y avait autant de lobbies à Dubaï, c'est qu'ils s'inquiètent peut-être un peu, certaines entreprises. Mais pour autant, la pression est forte. Donc les politiques, eux, ce qui les intéresse, c'est le court-termisme et la prochaine élection. Les grandes entreprises fortement émettrices, ce qui les intéresse, c'est les dividendes des actionnaires. Donc rien ne change. Vous avez posé la question. Comment vous y répondez ? C'est perdu ?
Ah non, rien n'est perdu. L'histoire n'est jamais écrite.
Oui, enfin, là, quand même, mais... on va toujours dans la même direction. On sait que les drapeaux rouges s'agitent de partout. Il y en a de plus en plus. Tout le monde crée attention. Et pourtant, on y va sans que rien ne change.
C'est une source d'angoisse profonde. Hein, Après, pour l'instant, c'est sûr que pas grand-chose dans les faits purs et durs change. C'est-à-dire, voilà, les émissions de CO2, c'est quelque chose de très factuel. On voit, ça ne change pas. Après, on ne s'attend pas à ce qu'une société change du jour au lendemain. La oui. question, est-ce qu'elle change assez vite ? On sait que les points de bascule aussi de société peuvent aller très vite. Et il y a des signes qui sont extrêmement forts. Là, il y a évidemment... Le scénario du pire, c'est que se réfugier dans le déni, le court-termisme, de se protéger, de se dire, de penser que ah, nous, on va dans notre communauté, dans notre pays riche, on va réussir à se protéger des autres, enfin, et à survivre même dans ces conditions. Il y a plein de discours extrêmement nocifs. La montée des extrêmes, enfin de l'extrême droite, très clairement, prend place là-dedans, et ça correspond à son objectif politique même. Enfin voilà, c'est très clair. Mais en même temps, quand on interroge les personnes, on a une grande majorité des personnes qui sont au courant et qui sont préoccupées et qui disent plus souvent qu'elles sont prêtes à changer aussi leurs habitudes, si c'est dans leurs moyens, si elles peuvent le faire, si c'est ça qu'il faut faire, mais toujours dans un souci de justice sociale, c'est-à-dire que l'ensemble de la société change. Donc après, voilà, c'est un peu l'œuf ou la poule.
Amélioration des qualités de la vie, réduction des inégalités, et puis décroissance versus sobriété, c'est ça qu'il faut. Mais il faudrait que ce soit dans la mesure... Un pays peut-être le faire, imaginons que les Français aient tout compris et s'y mettent. Le climat, la pollution ne s'arrête pas aux frontières. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qu'on nous avait vendu à l'époque. Donc ça veut dire qu'il faudrait que le monde entier... avec sa diversité sociologique, politique, économique, culturelle, partent du même principe et la même envie. On sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable.
Les mouvements sociaux aussi ne sont pas limités aux frontières. Hein. Donc effectivement, il y a ce dire d'avoir une vision géopolitique en disant, voilà, effectivement, les sociétés, sortir de la croissance économique, d'avoir un mouvement de la décroissance, enfin, il y a une littérature extrêmement riche. Et ça, c'est nouveau, c'est aussi nouveau. Elle commence à être prise en compte dans un plus large public. Elle était extrêmement confidentielle il y a encore quelques années. Maintenant, quand on voit l'ensemble des réactions de l'économie mainstream dominante contre les discours de la décroissance, c'est qu'effectivement, elle est prise beaucoup plus au sérieux, ce qui est une bonne chose. Mais pour revenir à cette idée de propagation, si on faisait une société décroissante en France, c'est-à-dire une société qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, qui vit dans les limites planétaires et qui peut vivre de façon tout à fait heureuse, absolument. Mais de façon... beaucoup plus égalitaire, pas forcément complètement égalitaire, mais c'est très clairement qu'elle n'est pas compatible avec les inégalités actuelles que vous citiez au début. Hein. Ça, c'est effectivement une des dimensions qui semble importante. Ça peut faire contagion. Et sachant qu'il ne s'agit pas de proposer un modèle unique, et c'est ça qui peut paraître parfois un peu compliqué à comprendre dans le monde de la décroissance, ce n'est pas une solution miracle, et puis ce n'est surtout pas... Une révolution, on efface tout et on change. C'est de se dire qu'il y a moyen, à l'intérieur de notre société actuelle, de la changer de façon radicale, mais à l'intérieur de la démocratie et de façon tout à fait pacifique. Ça existe. Et pour aller vers quoi ? Ben ça, différentes sociétés, différentes communautés peuvent décider d'un mode de fonctionnement différemment. Il y a plein de possibilités de vivre décemment et même de façon beaucoup plus heureuse que maintenant dans les limites planétaires.
Mais ça, on le suppose, on le sait, certains le prônent. Pour autant, ça reste une inspiration purement intellectuelle qui ne se traduit pas dans les faits. Je parlais tout à l'heure, et on peut, tout en poursuivant cette conversation, aborder la revue de presse que je voulais faire, mais vous l'avez très légèrement effleuré. Les points de bascule qui constituent une menace dans le novétique, j'imagine que vous savez ce qu'est novétique et tout le monde le sait. Une dame qui s'appelle Blandine Garot et certainement journaliste nous dit la Terre est sur le point de franchir 100 points de bascule, c'est une menace sans précédent et au rythme actuel, il nous reste moins de 7 ans pour rester sous la barre que vous évoquiez des 1,5 de réchauffement et nous allons malheureusement passer, alors, passer des limites qui deviennent, qui vont constituer un danger très important. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Tim Lenton, qui est spécialiste du système terrestre à l'université d'Exeter, et qui nous dit « Ces points de bascule sont une menace d'une ampleur sans précédent pour l'humanité. Il s'agit de ces seuils critiques du réchauffement au-delà desquels les systèmes impliqués dans la régulation du climat de la Terre ne pourraient plus jouer leur rôle avec des conséquences irréversibles pour les écosystèmes et donc pour les sociétés humaines. » Ça veut dire qu'il est trop tard ?
Non, ce qui est dit, c'est que ce sont des choses graves. Et que plus on passe de point de bascule, plus on a des choses graves.
Mais ce sont pas des choses de plus en plus graves. Et alors on les accumule et puis on dit attention, on va s'écrouler. Mais personne ne fait rien.
Alors on s'écroule, mais c'est pas des choses définitives. C'est vraiment pas du tout ou rien. C'est pour ça que depuis très longtemps, les scientifiques du GIEC insistent. Chaque demi degré, chaque dixième de degré compte pour ce qui est de voilà. Mais on peut faire ça sur toutes les domaines écologiques, de biodiversité, de pollution, des choses comme ça, qu'on n'est pas du tout ou rien. Alors, le point de bascule, ça veut dire que dans une dimension, ça va s'aggraver fortement, qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Mais c'est pas la fin du monde. De toute façon, ce ne sera pas la fin du monde. Hein. C'est pas ni la fin du monde, ni la fin de l'humanité, probablement, d'Homo sapiens. Par contre, il y a des possibilités de fin de notre humanité, mais des fins de notre humanité, au moins dans nos communautés. Ça fait au moins depuis Christophe Colomb qu'il y en a. L'ensemble des Amérindiens ont perdu leur monde, complètement disparu à un point. Là, ça peut nous donner des exemples de disparition complète.
Est-ce que l'horloge de nos civilisations ne commence pas à tourner à l'envers ?
C'était à l'envers, je ne sais pas, mais actuellement, effectivement, de prendre extrêmement au sérieux le risque de disparition de nos civilisations, donc des disparitions qui sera violente, extrêmement douloureuse. Et oui, on est obligé de le prendre en compte.
Mais il y a eu d'autres humanités avant nous, alors certainement beaucoup moins nombreuses, ils n'étaient pas 8 milliards, mais si on remonte au plus proche de nous, qui ont disparu, c'était quelques millions, mais les Homo sapiens ont fait disparaître. Les Néandertaliens ont purement et simplement disparu. La Terre ne s'en est pas plus mal portée. Est-ce que l'Homo sapiens ne va pas prendre le même chemin en quelques siècles ? C'est possible. 100, 200 ans.
C'est une possibilité. Moi, je ne peux pas faire de projection. Et à la limite, c'est peut-être pas ça qui est le plus important à penser. De penser qu'en tout cas, les conséquences sont suffisamment graves pour que tout ce qu'on apprécie dans nos sociétés démocratiques, civilisées, avec de confort, de confiance, enfin tout ça est extrêmement menacé. Il n'y a pas besoin d'invoquer la disparition de toute humanité ou de toute civilisation. Normalement, ça devrait être suffisant pour nous mettre en mouvement. Et quand on dit, mais il ne se passe rien, il ne se passe rien, si je vous parle actuellement, et si j'ai le plaisir que des auditeurs et des auditrices nous écoutent, moi, je ne peux que les encourager à rejoindre la lutte, si je puis dire. Et pour ça, je ne vais pas leur dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement.
C'est la lutte finale, là, au cas particulier, non ?
On est dans un cas où, effectivement, il y a énormément de choses à faire.
Alors, prenons un exemple pratique. On est dans, Midi-Pyrénées, on est en Occitanie. Il y a une bataille qui se fait autour d'un projet qui paraît complètement daté, complètement fou, qui s'appelle l'autoroute A69 pour relier la ville de Castres à la ville de Toulouse. On sait écologiquement, sur le plan environnemental, le coût que ça va avoir. On a du mal à comprendre quel est le besoin de cet outil dans les mobilités régionales. Comment on peut comprendre qu'un projet pareil à l'époque où on est, avec ce que l'on sait, avec tout ce qu'on vient de dire, comment on peut comprendre que certains politiques, qu'ils soient régionaux ou nationaux d'ailleurs, puisque je crois que le ministre, c'est Bonnal, le ministre du Transport a également soutenu ce projet, Madame Delga l'a soutenu un peu du bout des lèvres, mais enfin elle l'a soutenu de plus en plus ouvertement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on marche sur la tête, on va en arrière, c'est de la cécité, c'est un problème de limitation cognitive chez nos politiques. Comment vous l'analysez, vous, le spécialiste du cerveau ?
Alors, c'est très, très difficile à comprendre. À la Técopole, on a pas mal travaillé là-dessus. Effectivement, on partage votre constat. On ne comprend pas comment on puisse faire de tels projets encore actuellement. Et donc certains membres de la Técopole avaient rencontré Madame Delga pour essayer de comprendre, de lui expliquer, de lui dire voilà, que c'était pas dans... que ce projet était contradictoire à ce qui devait être ses valeurs fondamentales, en fait. Hein, voilà, oui, des valeurs fait. Humanistes, et que c'était pas du tout une bonne idée. Bon, bah, voilà, c'est le message est pas passé, il n'y a pas de moyen de dialogue.
Et comment vous le comprenez, ça?
Alors, il y a une... c'est sûr hein, qu'on voit encore et encore une hégémonie de discours anciens, des discours économiques, de croissance, de développement. Et ça, alors je ne vais pas vous donner des clés sur le fonctionnement du cerveau et de la psychologie, sur comment ça va, parce que voilà, le cerveau c'est compliqué, en fait c'est un sujet passionnant d'étude, mais il n'y a absolument rien dans les connaissances sur le cerveau qui nous permette de dire quoi que ce soit d'intelligent sur le comportement des personnes, pourquoi une personne est obstinée ou pas. Voilà, ça, c'est pas, faut pas aller chercher du côté des neurosciences.
Oui, on peut peut-être le qualifier plus directement et plus brutalement à partir d'un certain moment où, lorsque l'évidence est purement et simplement balayée, lorsque les intérêts de ceux dont on est en charge, parce que c'est un peu ça quand on est politique, ces intérêts sont bafoués, ça s'appelle comment ?
Alors, le terme hein, d'hégémonie culturelle, hein, c'est-à-dire des choses qu'on ne questionne même pas, par exemple, il faut de la croissance économique, qui a été quand même largement partagée, et encore par la plupart des partis politiques, il faut du développement, ben ça, c'est des façons de non-penser et qui sont utilisées tout le temps. Donc, quand on a baigné là-dedans, quand on est au milieu de personnes, de collègues qui tout le temps répètent « Ah, il faut du développement, il faut de la croissance, les autoroutes, c'est bien pour le développement », ben non, les études disent que pas forcément, mais voilà, mais... Mais au-delà de vous dire ça, qu'il y a une obsession d'un certain discours qui est effectivement porté par des économistes orthodoxes. Voilà, Marc Ivaldi à la Toulouse School of Economics, c'est à ma connaissance le seul scientifique qui a pris la défense de la 69 sur des critères de calcul, de coin de table, d'optimisation, de coût-bénéfice sur la vitesse, etc., qui n'ont absolument, à mon avis, aucun sens. Mais voilà, il y a des économistes qui vont défendre les pouvoirs en place, le business as usual, et c'est vraiment cette idéologie que la croissance économique, c'est bien. Pourquoi ? Mais
est-ce que ce n'est pas parce que, finalement, certains ont atteint leurs limites cognitives et qu'ils n'arrivent pas à concevoir une société organisée totalement différemment, avec des paradigmes entièrement nouveaux ? Est-ce que ce n'est pas une limitation cognitive ?
Je dirais que c'est peut-être un manque de pratique d'imagination sociologique.
C'est bien dit.
C'est-à-dire qu'il faudrait avoir... des conversations avec des personnes d'autres milieux. Alors voilà, c'est facile pour moi de le dire. J'ai la chance, voilà, pour revenir sur la Técopole, je vous ai parlé d'un collectif. On peut dévier. Donc on se retrouve voilà sur un manifeste qui dit un peu les valeurs que je vous avais dit au début. Mais on est surtout des scientifiques de toutes les disciplines sur Toulouse. On est un collectif complètement pluridisciplinaire. On est plus de 230 actuellement.
Mais qui n'est pas écouté par les politiques qui continuent à mener finalement leur boutique comme ils le faisaient avant, avec des valeurs qui sont complètement obsolètes et sur lesquelles ils n'arrivent pas à évoluer. Il y a quand même un gros problème cognitif chez la plupart de nos politiques.
Je sais pas s'il faut l'appeler cognitif. Voilà, c'est... je sais pas.
Après je pourrais avoir employé des mots un peu plus triviaux, un peu plus directs, mais le scientifique que vous êtes ne pourra pas les admettre. Et nous sommes à la radio. Alors, tiens, autre exemple, dans Reporter, hein, vous connaissez, j'ai lu que le gouvernement avait élaboré un plan pour stopper le déclin du vivant. Alors, c'est un énième plan, le SNB, Stratégie Nationale Biodiversité, qui a été présenté, comme nous le dit Reporter, en grande pompe à Matignon, le lundi 25 novembre. Il s'agit d'une feuille de route, une sorte de to-do list, nous dit... une personne que je citerai tout à l'heure, pour stopper et inverser l'érosion du vivant d'ici à 2030. Cette personne, je ne savais même pas qu'elle existait, s'appelle Sarah El Haïry. Vous savez qui c'est ? Non ? C'est dommage, elle est secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Voilà. Donc, un énième plan qui vient. Alors, on nous dit qu'il y a 200 actions prévues dans le plan, création d'un nouveau parc national pour protéger les zones humides. Je ne sais pas comment on va les protéger. La Camargue, par exemple. Bon, la Camargue, on sait que dans quelques 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y aura peut-être plus de Camargue. Protéger une partie de la Guyane, du bassin de la Loire, etc. Ben, enfin, on dit qu'on ne fera plus de jet ski dans le sanctuaire Pélagos, qui est une vaste aire marine qui est protégée en mer Méditerranée. Enfin, quand on entend tout ça, qu'est-ce que c'est que ce type de plan ? Ça n'a aucun sens, parce qu'on ne va pas à la racine du problème. C'est chaque fois, comme disait ma très ancienne grand-mère, un cautère sur une jambe de bois. Ça n'a aucun sens.
Effectivement, ça, alors je ne connais pas le détail, il y a certainement des choses qui sont extrêmement bonnes à prendre et qui vont permettre des actions et à des personnes de faire des choses très bien avec ce plan, que comme toutes les lois européennes de protection de la biodiversité, sont des outils absolument importants pour sauver ce qu'on peut sauver. Mais effectivement, dans la logique actuelle du gouvernement, tout ce qui vient apparemment du ministère de la Transition écologique du gouvernement n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur l'agriculture.
On pourrait parler effectivement d'agriculture, on va faire une émission métaux sur les pesticides.
Et effectivement, quand on parle de biodiversité, quand on prend les rapports de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, voilà, la première cause de la perte de biodiversité, c'est le changement d'usage des sols, c'est-à-dire de convertir des forêts en agriculture, et puis voilà, tout ce qui est la surexploitation du vivant et l'ensemble des pesticides. Dans les limites planétaires qu'on considère, les dérèglements des cycles de l'azote et du phosphore sont dans les limites qui sont dépassées, qui sont dues à l'agriculture intensive. Donc on sait, on voit les cartes qu'on trouve sur le site du ministère d'ailleurs, qu'on voit de pauvreté des sols français, de pollution. Il y a tout le temps un nouveau scandale de pollution. Alors il n'y a pas que l'agriculture, mais c'est vrai que toute question sur la biodiversité, on sait que voilà, toutes les personnes que je connais dans ces domaines-là disent bah oui, ça fait très longtemps qu'on sait que s'il y a moins d'insectes et moins d'oiseaux, c'est bien dû aux pesticides. Voilà, fallait pas chercher très très loin quoi. Donc si on pose la question de la biodiversité, il faut évidemment poser la question de l'agriculture intensive. Non, on a une situation bloquée de lobbies trop fortes qui refusent de toucher à quoi que ce soit. Et ça, c'est voilà, comment on fait quand il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs et les agricultrices, etc. Ouais, c'est juste de dire
On les a placés, ils sont malheureux, ils victimes du système. Hein, on les a mis dans un... c'est les 30 glorieuses. Hein, il fallait produire à tout prix, avec des moyens qui aujourd'hui se révèlent complètement délétères. Et je suis dans l'euphémisme, bien évidemment.
Oui. C'est ça. Il y a effectivement, si on veut penser sortie du système agricole, il faut penser aussi sortie de la position économique du système agricole. Donc c'est l'ensemble du système économique, mais de penser quand même, c'est quand même le fondamental, ce qu'on mange, et d'avoir la possibilité de continuer à manger. Notre économie agricole est complètement dépendante des énergies fossiles. Donc, en cas de crise majeure, il y a une vulnérabilité juste pour se nourrir en France.
Quand vous voyez des champs de maïs qui sont arrosés avec des canons au moment où l'eau, on en manque le plus. Alors, on sait que c'est une plante qui n'est pas endémique. On sait que c'est une plante qui a un besoin énorme d'eau, peut-être pas plus que d'autres, mais au plus mauvais moment, c'est-à-dire au creux de l'été, au moment des chaleurs. Et on voit des hectares et des hectares où on balance de la flotte, tout ça pour aller exporter. On marche sur la tête, véritablement.
Alors, il y a toute cette question à reposer. Alors après, on va dire, mais comment on fait pour avoir autant de production avec une population agricole aussi faible ? Et c'est vrai, si on veut faire de l'agroécologie, systématiquement partout...
Ça veut dire qu'il faut ramener des gens à la terre ?
Il faut ramener des gens à la terre, il faut ramener la paysannerie. L'atelier paysan, notamment, dit qu'il faudrait ramener 1 million de paysans, mais c'est une première étape. Ça peut être tout à fait exaltant, parce qu'il y a plein de personnes qui ont cette envie de revenir, de quitter les îles, d'avoir un rapport à la terre, au vivant, des choses qui peuvent être extrêmement épanouissantes. Mais pour l'instant, les structures sociopolitiques pour que ça se fasse à grande échelle n'existent pas. Mais il y a plein d'initiatives à petite échelle sur lesquelles on pourrait s'appuyer très rapidement pour changer de modèle.
Bien, Jean-Michel Huppé, on arrive quasiment au terme de cette émission, si on n'y est pas arrivé. Alors, on finit toujours par quelques conseils dits culturels, entre guillemets, bien sûr, qui sont souvent des conseils de lecture aux auditeurs s'ils ont envie d'aller plus loin. Vous avez 2 livres devant vous, vous nous en parlez ?
Oui, alors j'ai amené un classique qui s'appelle « L'événement anthropocène » de deux historiens de l'environnement, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. Donc ça a déjà quelques années, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est vraiment un ouvrage passionnant et qui permet de, de faire sens un peu de ce qui nous arrive, de voir justement comment on y est arrivé là, et par rapport à des discours un peu simplistes en disant « ah bah c'est à cause de ça, c'est l'humanité, c'est les énergies, etc. » multiplie les discours historiques en disant « voilà, il y a plein de champs de causalité qui complexifient la situation dans laquelle on est. » Donc d'avoir le recul historique pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre notre société, c'est une introduction qui est vraiment super. Et l'autre ouvrage, c'est un peu de l'autopromotion pour une production de Latécopole, puisque c'est trois collègues de Latécopole qui l'ont édité. C'est un livre qui s'appelle « Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public », que vous avez cité en introduction, et qui est plein de petits chapitres qui permet de montrer toutes les dimensions du greenwashing, donc des discours de blanchiment, c'est-à-dire des discours qui nous détournent, qui se veulent écologiques, mais qui nous détournent des vrais intérêts ou des actions, et qui ne se limitent pas à des actions de communication des entreprises, mais qui est dans l'ensemble du champ politique et social, avec des choses assez inattendues. Donc ça permet de complexifier un petit peu, voilà, on parlait des discours du déni, de savoir, de dénoncer les choses trappes ou les mauvaises pistes pour pouvoir réfléchir un peu plus lucidement, on espère.
Alors moi, je vais aussi vous en conseiller. Bien d'abord, chez Grasset, d'Aurélien Barraud, l'hypothèse K, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Aurélien Barraud, tout le monde le connaît, c'est un astrophysicien qui pousse souvent des cris d'alarme écolo avec justice. Et là, il va s'interroger sur le rôle de la science face à la catastrophe écologique. Il va nous rappeler que le réchauffement climatique n'est que petite partie du problème et que toutes les études montrent, ce que l'on a essayé d'expliquer au cours de cette heure, montre que la vie s'effondre sur Terre et que les humains ne seront pas épargnés. Puis il traite également, et c'est particulièrement intéressant, de la fusion nucléaire, qui constitue, pas de la fission, de la fusion nucléaire qui pourrait constituer un jour, comme il le dit, je le cite, une révolution pour l'humanité. Mais surtout, Barraud va s'interroger sur le point de savoir si cette énergie, qui est presque propre et illimitée, serait vraiment souhaitable. Qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi elle va-t-elle servir? C'est bien beau d'avoir un outil très performant, mais encore faut-il savoir au service de qui et de quoi et de quelle valeur il va être. C'est une interrogation un peu iconoclaste, mais qui est tout à fait passionnante. L'hypothèse qu'a Aurélien Barraud chez Grasset. Et puis, pour ceux qui aiment bien penser un peu avec la philosophie, Benoît Berthelier, qui est un ancien élève de Normale Sup et qui est agrégé de philosophie, qui a écrit « Le sens de la Terre au seuil », »,« Sens de la Terre » sous-titré « Penser l'écologie avec Nietzsche ». Ça paraît un peu surprenant comme ça, si vous êtes en quête de philosophie, ben vous allez cheminer sur cette question avec Nietzsche et peut-être on pourra répondre à ce mystérieux appel de Zarathoustra « Que le surhumain soit le sens de la Terre ». Alors Benoît Berthelier, « Le sens de la Terre au seuil ». Jean-Michel Huppé, merci d'être venu.
Merci à vous.
Vous étiez absolument passionnant. J'aurais volontiers continué cette discussion, mais peut-être que vous accepterez une deuxième invitation, vous ou peut-être certains de vos collègues de Latécopole, dont nous essayerons de suivre les travaux. Merci à notre technicien de luxe aujourd'hui, c'était Jean-Luc Palévaudy, le président d'Esprit Occitanie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania et surtout, on ne lâche rien. Belle journée à toutes et à tous.